Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À nous le futur. En ce plein beau temps des fêtes et de la neige, aujourd'hui on va surtout parler des Premières Nations, mais dès le début, ça va être les non-autochtones qui parlent. Je pense à Fridtjof Capra, le physicien qui donne des cours d'écolittératie que je suis en train de suivre. Et puis j'aimerais bien ça qu'on donne, c'est en anglais, j'aimerais bien ça qu'on donne des cours d'écolittératie en français. Je vais en parler aux Amis de la Terre qui ont le marché de solidarité ici à Sherbrooke. On verra ce qui va se passer. Alors, dans le livre de Capra qui est traduit en français, qui s'appelle « Sagesse des sages », j'ai à peu près 7-8 citations à vous donner. Okay? Fait que là, il parle d'un psychiatre, Stanislav Grof, qui s'intéresse au nouveau paradigme. Alors, Grof dit, c'est-à-dire Capra dit, comme je réfléchissais aux remarques de Grof, je me suis demandé comment on caractériserait une personne fonctionnant exclusivement sur le mode cartésien. Et je me suis rendu compte que cela aussi serait de la folie. Comme le dirait Lang, c'est de la folie de notre culture dominante. Le mode cartésien, c'est celui surtout où on fonctionne encore actuellement. C'est un peu l'opposé du mode holistique, féministe et pacifiste. C'est le nouveau paradigme qui est en train d'émerger. Alors, à la page 127, on dit que, comment il s'appelle, donc, Lang, il dit, l'expérience, comme je devais l'apprendre par la suite, a exercé une grande fascination sur Lang et il soutient que c'est quelque chose que l'on ne peut décrire. Il essaie de créer l'expérience en illustrant son discours par de la passion, de l'intensité et un grand sens théâtral. Par exemple, tu veux dire, c'est pour dire que c'est le théâtre qui compense l'incapacité de pouvoir décrire certaines choses. Par exemple, quand il me décrivit la situation de double lien, on dit aussi double paradoxe, il l'illustra par l'image d'un enfant recevant des messages contradictoires de ses parents. Imagine un enfant dans un état d'esprit où il ne sait jamais quand sa mère s'approche de lui et tend la main, si elle va le caresser ou le frapper. En disant cela, Lang me regarda avec intensité et leva lentement la main jusqu'à ce qu'elle se trouve juste devant mon visage. Pendant quelques secondes, je ne sus vraiment pas ce qui allait arriver et je ressentis une anxiété soudaine. C'était bien sûr l'effet qu'il avait voulu produire. Il ne me caressa ni ne me frappa, mais il se détendit et but une gorgée de vin. Il avait illustré son propos avec une intensité et une efficacité parfaites. J'ai oublié de vous dire dès le point de départ que ce livre-là de Fridtjof Capra, c'est un livre de conversation avec des personnalités remarquables. De son point de vue, bien sûr. OK. Alors, ici, je passe à la page 242. M. Capra interview Hazel Anderson, une économiste alternative, qui a écrit, par exemple, le livre « Politics of the Solar Age ». Alors, Hazel Anderson dit « Les coûts sociaux tels que ceux des accidents des procès de la santé publique sont ajoutés au PNB ». Comme s'il représentait des contributions positives alors qu'il devrait en être retranché. Et Hazel Anderson cite ici une remarquable incisive de Ralph Nader. Chaque accident de la route se traduit par une progression du PNB. Elle se demande alors si ces coûts sociaux ne correspondent pas justement à la fraction du PNB qui continue de croître. Puis, en conséquence, comme l'observe Hazel Anderson, la plupart des techniques que nous connaissons sont profondément anti-écologiques, nocives pour la santé humaine. L'âge solaire, chez Hazel Anderson, cette expression va très au-delà de son sens technologique. Elle l'emploie métaphoriquement pour désigner la civilisation nouvelle qu'elle voit émerger. OK. Ici, à la page 259. La théorie économique classique a-t-elle donc été abandonnée? Demande Capra à Hazel Anderson. Non, pas du tout, et c'est bien ce qui est curieux. La pensée économique d'aujourd'hui, elle est fortement schizophrène. La théorie classique a été pratiquement mise la tête en bas. Les économistes, quelles que soient les écoles dont ils se réclament, créent eux-mêmes des cycles économiques au moyen de leur politique. Le consommateur est contraint de devenir, sans le vouloir, un investisseur. Et le marché est dirigé par l'action des grandes sociétés et de l'État, alors que les théoriciens néoclassiques continuent d'évoquer la main invisible. Et puis l'inflation, qu'est-ce que c'est? Pour Hazel Anderson, l'inflation, ce n'est que l'addition de toutes les variables que les économistes ont oublié de mettre dans leur modèle. Toutes ces variables viennent maintenant nous hanter comme des revenants. Donc, il dit Capra à Hazel Anderson, « Aucune des variables écologiques et sociales que vous avez mentionnées n'apparaît donc dans les modèles économiques. » Et je demandais pour ramener notre conversation vers l'économie, « Non, aucune. » Les économistes préfèrent se servir des instruments keynésiens traditionnels afin de provoquer l'expansion ou la déflation et susciter des mouvements à court terme qui occultent les réalités écologiques et sociales. Et Hazel Anderson m'a ensuite assuré que les méthodes keynésiennes traditionnelles ne peuvent plus résoudre nos problèmes économiques. Elles déplacent seulement les problèmes à travers le réseau des relations sociales et écologiques. Puis, j'ai souvent entendu remarquer durant notre discussion sur l'inflation que Hazel Anderson employait le langage de la théorie systémique. Ainsi, elle soulignait les interconnexions entre le système économique et le système écologique ou évoquait la répercussion des coûts sociaux à travers le système. Je n'ai donc pas manqué de lui demander si elle avait trouvé utile le cadre fourni par la théorie systémique. « Mais oui, m'a-t-elle répondu, je pense que l'approche systémique est essentielle pour qui cherche à comprendre les problèmes de notre économie. C'est la seule approche qui permet de mettre un peu d'ordre dans le chaos qui règne actuellement dans le domaine conceptuel. » Au fond, ce qu'enseigne la sagesse systémique, c'est que si l'on a pris des dispositions qui vont dans le bon sens, on n'obtiendra pas nécessairement des résultats meilleurs ou en prenant encore d'autres. C'est exactement cela. Il m'est souvent arrivé d'exprimer la même idée en disant qu'il n'y a rien qui échoue aussi bien que la réussite. Bon, là, c'est un petit peu flou, là, mais en tout cas, c'est bien ça. C'est Friedrich Capra, la sagesse des sages, un livre que je vous conseille de lire. Il y a plusieurs personnes interviewées. Fait que vous pouvez l'obtenir par prêt entre bibliothèques s'il n'est pas dans votre bibliothèque locale. Et puis, j'ai ici, dans la page Facebook de Roméo Bouchard, il y a quelques jours, il disait, dans son introduction, là, « Ce n'est qu'un début, point d'exclamation, bien naïf ou hypocrite, qui déchire ses vêtements parce que les indépendantistes dénoncent l'aplavantrisme de ceux qui s'allaitent aux mamelles du fédéral et font des courbettes à leurs fossoyeurs. Bien naïf aussi celui qui se tente de voir bondir la meute fédéraliste. » Bourgault est de retour, Falardeau aussi, et Michel Sartran également. À la guerre comme à la guerre. Avis aux fédéralistes, inutile de jouer aux vierges offensées et de crier à la dictature. Les indépendantistes ne font qu'exercer leurs droits, tout comme vous le faites triomphalement depuis longtemps, avec toute la suffisance britannique qu'on vous connaît. Fait que M. Bouchard continue en disant qu'il n'est pas certain si PSP a la couenne assez dure en ce moment, il va falloir qu'il s'entraîne. Une promenade dans un parc, c'est pas assez. Il faudra qu'il se durcisse la peau pour être l'équivalent d'un Napoléon, d'un Papineau ou d'un René Lévesque. Justement, ici, j'ai pris un livre de Pierre Bourgault à la bibliothèque. C'est de Jean-François Nadeau. Et puis, saviez-vous que Pierre Bourgault est né à East Angus, dans les cantons de l'Est? Et, bon, c'est ça. Et qu'il a travaillé aussi à CHSLT. Et c'est la radio locale, là. Voilà. Et j'ai un livre de Pierre Falardeau qui s'appelle « Entretien politique avec Pierre Falardeau ». Ça s'intitule « Québec libre ». C'est dur. C'est un tough dans le temps, ce gars-là. Mais, comme je disais, peut-être il y a une couple d'émissions, c'est la voie indépendantiste, c'est-à-dire c'est la voie l'indépendance du pays. La souveraineté du pays. Il y a une nouvelle voix actuellement qui fait sa place, c'est la souveraineté du peuple. Elle est représentée surtout par Roméo Bouchard, par André Larocque, par Sébastien Ricard et quelques autres. OK. Et également, je recevais de l'ONU là, un avis disant qu'à la COP 30, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, alerte que la crise climatique est une crise sanitaire. Nous le savions, parce que je vous l'ai déjà dit, mais c'était ça s'en rappeler. Et vous pouvez voir le bulletin de nouvelles de l'ONU. Là. Ça s'appelle « À la COP 30, l'OMS alerte, la crise climatique est une crise sanitaire ». Et cette même lettre de nouvelles de l'ONU nous dit que les catastrophes ont coûté plus de 3 000 milliards de dollars à l'agriculture en 30 ans. Et puis, j'ai lorgné du côté du Parti vert du Québec, et celui-ci condamne le plan de Legault de financer la production d'armes. Le Québec ne doit pas être complice de la guerre, nous ne devons pas financer des entreprises qui participent à des massacres. Ces paroles ont été prononcées par Alex Tirel lors de la Marche pour la paix et le désarmement organisée par le Mouvement québécois pour la paix le 19 octobre à la Place du Canada à Montréal. Alors ça, c'est dans le site Internet du Parti vert du Québec. Et puis, je recevais une nouvelle que je trouve importante de vous communiquer. C'est le MOB, le Mouvement Mobilisation, tu sais, MOB, là, qui s'intéresse à la crise climatique surtout. Alors, ils nous disent qu'il y a un nouveau site web. C'est https://www.groupegroupmobilisation.com. Alors, ce sont eux qui ont développé, avec un physicien local, là, la déclaration d'urgence climatique. Et cette déclaration a été adoptée il y a peut-être 6 ans déjà à la ville de Sherbrooke. Alors, je me demande si la nouvelle mairesse va en tenir compte. Souhaitons-le. Maintenant, Roméo Bouchard, vous êtes au courant que le Québec veut faire une constitution, puis il y a comme une levée de bouclier contre cette constitution-là parce qu'elle est unilatéralement faite par deux, trois personnes, alors qu'une vraie constitution, ça devrait être le reflet de l'expression populaire, autrement dit, le reflet de la souveraineté populaire. Alors, c'est ce que va dire Roméo Bouchard à la commission sur la consultation publique. Il va faire ça bientôt, là. Je ne sais pas quelle date exactement. Mais dans cette publication, il parle de notre relation aux Premières Nations. Alors, plusieurs ont fait remarquer avec raison, dit-il, que notre relation aux Premières Nations est pratiquement absente du projet de loi numéro 1, c'est-à-dire le projet de constitution. En fait, le seul endroit où il en est question, c'est dans deux considérants très vagues au texte de constitution proposé qui se lise comme suit. Considérant qu'il existe au sein du Québec des nations Abénakis, Algonquins, Natsikamek, Cree, Innu, Mi'kmaq, Mohawk, Naskapi, Wanda, Wallace, Tokikik et Inuit, considérant que l'Assemblée nationale reconnaît aux Premières Nations et aux Inuits du Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu'ils ont de maintenir et de développer leur langue et leur culture d'origine, il faut leur faire une place comme telle dans la structure politique et économique du Québec, dit Roméo Bouchard, qui soit ni l'annexion ni la partition, mais le respect mutuel de l'autonomie nationale, la cohabitation et le partage de l'usage du territoire. En effet, nous suggérons que l'adoption d'une constitution québécoise devrait comporter la création d'un conseil permanent de négociation Québec-Premières Nations, représentatif et directement redevable à l'Assemblée nationale. Alors, c'est le mémoire que Roméo Bouchard va présenter, appuyé par plusieurs personnes, par exemple Denis Trottier, ex-député de Robertval, Christian Pelchat, qui est un citoyen libre, Rosaire Gagnon, qui est un travailleur social que je connais, avec qui j'ai étudié ici à Sherbrooke, moi-même en tant que militant écologiste, et Christian Bégin, comédien animateur, Gaétan Ruet, ex-maire d'Amicoui. T'sais. Ces gens-là vont être avec Roméo Bouchard pour présenter leur mémoire à la consultation publique sur le projet de loi numéro 1 intitulé « Projet de loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec ». OK. Fait que concerne le... Là, je continue à m'enfoncer dans le thème des Premières Nations, mais justement, nous sommes déjà rendus à l'époque de la publicité. Alors, je vous reviens dans un instant. Bon, au lieu de la publicité, c'était Population 2 qui chantait « Beau baptême ». Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de À nous le futur. C'est Claude Saint-Jacques qui est au micro. Et puis aujourd'hui, je parle des Premières Nations et je vais terminer ce dossier. La semaine prochaine sera le début de la réforme de la démocratie. Alors, selon certains dires, nous les Canadiens français, qui sommes arrivés ici là, il y a quelques centaines d'années, là, nous serions la 12e Première Nation. Bon, OK, ça se débat. Mais Jean Désy, le médecin, a écrit le livre « Amériquoisie » qui va dans ce sens-là. Il dit que c'est au fil de mes pérégrinations dans tout le territoire de la péninsule Québec-Labrador, dans les villes le long du Saint-Laurent et au sud, mais surtout au nord, sur la côte nord, la baie James, Mistassini, Iyu, Itché, et dans le Grand Nord, Nunavik, que j'ai fini par mieux comprendre les extraordinaires qualités de la vie métisse. À n'en point douter, l'avenir harmonieux de ce pays passe par la métisserie. Alors, c'est dans le livre « Amériquoisie », l'auteur est Jean Désy. Dans le Devoir de 2017, le 19 avril, le titre, c'est « Un regard à décoloniser ». On dit « Notre méconnaissance de l'histoire et de la réalité des peuples autochtones est le premier obstacle au renouvellement de nos relations avec eux. Combien d'entre nous peuvent nommer les 11 nations autochtones du Québec? Qui a visité une de leurs communautés? Qui peut nommer un artiste? Qui connaît un conte? La grande loi de la paix? Que savons-nous de leur culture politique, de la tradition juridique, du rôle des femmes? Combien d'entre nous ont appris à dire « bonjour » ou « merci » dans une de leurs langues, Kwe, Megwesh, par exemple? Nous avons tout à gagner à reconnaître pleinement la dimension autochtone de ce territoire où nous avons été accueillis avec bienveillance et où se joue notre avenir commun. Alors, notre territoire, c'est l'Amérique du Nord, mais le territoire des Amérindiens en général, avant l'arrivée des premiers Européens, c'était l'Amérique du Nord, centrale et du Sud. Eux autres appelaient ça l'île à la tortue. Alors, sur l'île à la tortue, il y a eu l'équivalent d'un génocide. Et je suis désolé pour cela. Et maintenant, j'ai un livre qui s'appelle « L'art d'enseigner des Indiens Iroquois aux sources de la première Constitution ». C'est l'art d'enseignement des Indiens Iroquois. Donc, la grande loi qui lit, c'est la grande loi de la paix des Iroquois. La Constitution fédérale Haudesonne, appelée la grande loi de la paix, ou la grande loi qui lit, elle a été élaborée entre 1140 et 1390, comportant en totalité 117 articles transmis par la tradition orale. Je vous donne un exemple. L'article 44 dit « La descendance se fait par le lien maternel. Les femmes sont la source de la nation. Elles possèdent le pays et sa terre. Les hommes et les femmes sont d'un rang inférieur à celui des mères. » Un autre article, par exemple, c'est l'article 8. « Les gardiens du feu ouvriront et fermeront toutes les séances du Conseil après avoir recueilli les délibérations des deux parties et rendu leurs décisions. Tous les chefs Onondaga ou leurs suppléants doivent être présents à chaque Conseil et se mettre d'accord pour rendre une décision à l'unanimité. » Alors, ça, on peut dire que c'est comme la source de la démocratie, n'est-ce pas? OK. D'autre part, dans le Devoir de 2016, on disait qu'il faut revitaliser les langues et les cultures autochtones. La Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones est un outil important dans le processus de décolonisation et de réconciliation. Ainsi, un des éléments clés de la réalisation du droit à l'autodétermination des peuples autochtones est la revitalisation des langues et des cultures autochtones. Je suis bien d'accord, je suis d'accord pour en apprendre. Ici, c'est la langue abénakise. J'ai déjà eu un peu d'Iroquois, langue iroquoise. Mais j'ai peu appris de mots comme « qu'est-ce qu'une table » ou etc. Là. C'est surtout des mots de constitution iroquoise. Et puis, l'Université Bishop se range derrière les demandes de ses étudiants autochtones, dit un article de Anne-Marie Yvon en octobre 2020. Et puis, j'ai le titre d'un autre article, c'est « La tradition amérindienne vit toujours ». Parce que c'est une tradition de l'épinette rouge. Avec son onguent, qui vient de l'épinette rouge, il soignait des humains et des animaux pour des plaies, la gangrène, les fractures, les infections, les verrues plantaires, à peu près tout mal qui devait sortir de notre corps. Et puis, je me souviens que lorsque je demeurais à Boucherville, lors du 350e de Boucherville, il y a eu une célébration de l'autochtonie à propos justement de la mission de paix. Tu sais, il y a des gens, là, des Montréalais, qui font une mission de paix annuelle. Ils pagaient dans des canaux de Kanawagé à Québec. Et puis, en 2017, c'était à Boucherville qu'ils avaient arrêté pour faire une célébration. Et puis, je vous informe qu'il existe une librairie qui s'appelle Librairie Aninorak, où vous pouvez vous procurer beaucoup de livres. Et puis également qu'il y a eu ici, du 22 au 24 mai 2024, à l'Université de Sherbrooke, une sorte de congrès sur les livres et imprimés autochtones au Québec. Et puis, on disait, par exemple, dans le mot d'ouverture de Christine Hudon, qui est la vice-rectrice aux études et aux relations internationales. Et puis, après ça, il y a eu l'historicité de l'écriture et de la littératie chez les Premières Nations. Puis, à 11h15, les mots indigènes, les auteurs autochtones, revoir et relire les relations du Québec et Wendake. Et ainsi que, plus tard, ils ont parlé de l'influence d'une langue autochtone et de la littérature orale dans Ravensong de Lee Maracle et sa traduction. Puis, il y a eu un échange sur la médiation éditoriale et visuelle avec Rodney et Saint-Éloi et Daniel Grenier des éditions Aninorak. OK? Fait que félicitations à l'Université de Sherbrooke qui a fait ça en 2024. Également, j'ai un article en lien avec les Autochtones ici, là. Ces forêts boréales tuées par l'industrie minière, c'est en août 2023. Ces anciens sites miniers sont voués à demeurer des plaines aux allures lunaires si les gouvernements ne s'attellent pas sérieusement à les restaurer. Je dis ça parce que souvent, c'est des Autochtones qui se voient obligés de quitter ces endroits à cause des mines. Fait que les Autochtones exigent un moratoire sur les coupes de bois. Ça, c'est en 2023. À Radio-Canada. Ils se définissent comme les gardiens du territoire. Et puis, il y a un nouveau sentier à tracer vers un accès équitable des soins de santé en milieu urbain pour les Autochtones. C'est un mémoire présenté au gouvernement du Canada dans le grand cadre de l'élaboration d'une nouvelle loi sur la santé autochtone. C'est le 7 janvier 2022 que ça a été présenté par le regroupement des Centres d'amitié autochtone du Québec, RCAAQ. Ça s'appelait « Un nouveau sentier à tracer vers un accès équitable à des soins de santé en milieu urbain pour les Autochtones. » Et puis, le quotidien de Trois-Rivières écrivait un article aussi. Ça s'appelle « Voix parallèle, un éveil collectif sur la réalité autochtone. » Alors, le musée amérindien de Mashtosias présente une nouvelle exposition itinérante qui s'appelle « Voix parallèle ». Alors, l'article de Trois-Rivières, je pense, là, s'intitule « Voix parallèle » qui décrit cette exposition-là. J'ai commencé à vous en parler la semaine dernière. Encore quelques petits mots, là. Donc, j'ai dit qu'il y a eu un génocide sur l'île à la Tortue qui comporte les trois Amériques. Et puis, il y a eu une commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics. Deux points. Écoute, réconciliation et progrès final. C'est un rapport final qui a été émis en 2019. Alors, le commissaire disait que, une fois cela établi, une image évoquée par une aînée Atikamekw au cours de nos travaux m'est revenue en mémoire, celle de l'importance de savoir la place occupée par chacun dans le canot. Le canot, c'est T-C-I-M-A-N, Timan. Parce qu'avec la place devient le rôle nécessaire au maintien d'équilibre, celui de l'éclaireur qui, tout en avant, prévient les écueils, celui du barreur qui dirige le canot derrière et le propulse, et enfin, celui du passager qui se laisse guider sur le territoire. En matière de services publics, depuis toujours ou presque, nous avons fait des peuples autochtones des passagers sur leur propre territoire. Pourtant, soyons honnêtes, qui peut mieux que les communautés autochtones elles-mêmes agir comme éclaireur et diriger le canot? Bon. D'accord. Alors, ce rapport-là de quelques 500 pages, là, je vous donne juste quelques petites citations, assez courtes finalement. Tiens. La méconnaissance des réalités autochtones est d'ailleurs un phénomène généralisé qui dépasse les titres d'emploi, les fonctions occupées et les services publics. Elle s'inscrit dans nos rapports quotidiens avec les membres des Premières Nations et les Inuits, que ce soit à la rue, à l'aréna, à l'école ou ailleurs. Pour cette raison, de mon point de vue, tout comme celui de plusieurs personnes entendues dans le cadre des travaux de la Commission, le changement de mentalité attendu relève de la nécessité d'éduquer une population tout entière, comme l'a résumé la directrice du Collège Kiuna, Prudence Anis, devant la Commission. Et malgré l'assitude qu'on ressent, l'éducation sur notre histoire, la compréhension des impacts intergénérationnels de la colonisation, la reconnaissance des manifestations contemporaines de ces impacts-là, c'est un passage obligé. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Toutes les personnes qui sont sérieuses dans leur démarche doivent passer par là. C'est nécessaire aussi pour éviter de tomber dans les stéréotypes. Il faut accroître la capacité de la population à comprendre la diversité de nos Premières Nations. Donc, si on veut favoriser une meilleure relation avec les Autochtones et les Allochtones, il faut nécessairement se donner des moyens pour éduquer la population en général, pour la sensibiliser à des faits historiques précis qui ont eu lieu et qui ont, tourne la page, je n'ai pas la page. Et cela dit, de mon point de vue, le gouvernement aurait avantage à tirer profit de l'intérêt public grandissant pour les Autochtones et à s'inscrire le plus rapidement possible dans la volonté de réconciliation dans l'espace public. En vérité, les clés auxquelles nous sommes collectivement confrontés posent l'obligation d'une action concertée et soutenue dans le temps. La nécessité de mettre un terme à la méconnaissance, et ce le plus tôt possible dans le parcours de vie, se pose en la contribution de plusieurs intervenants. Je rêve d'un Québec où, dès le plus jeune âge, les citoyens peuvent devenir apprenants pour reconnaître les histoires du peuple autochtone, leurs contributions, leurs savoirs, leur diversité et leur culture. N'oubliez pas qu'il y a à peu près 142 recommandations, appels à l'action, n'est-ce pas? Alors, on propose une veille citoyenne. Au-delà du mécanisme de suivi proposé, la concrétisation des appels à l'action identifiés peut aussi être soutenue par l'engagement citoyen, c'est-à-dire ça, c'est vous et moi. L'exemple du comité public de suivi des recommandations de la Commission Charbonneau, initié par un groupe d'universitaires et de citoyens au lendemain du dépôt du rapport de la Commission du même nom, est un exemple concret. Année après année, le rapport public déposé, voilà. Et dans une perspective de réconciliation et de véritable collaboration de Nations Nations, il est de mon point de vue essentiel que les membres des Premières Nations et des Inuits du Québec puissent s'approprier le contenu de ce rapport. Par conséquent, je recommande au gouvernement que, ça c'est l'appel action 141, procéder le plus rapidement possible à la traduction et la diffusion du rapport synthèse de cette commission dans toutes les langues autochtones utilisées au Québec, sous forme écrite au sein des peuples autochtones et ce, en collaboration avec leurs représentants. Et en conclusion, de Val-d'Or, épicentre des événements ayant donné naissance à cette commission 24 mois durant, notre équipe et moi, nous sommes à la rencontre des peuples autochtones et je l'ai dit et je le redis, les défis sont immenses pour gagner le pari de la réconciliation. Je nous souhaite de nous souvenir de leur présence antérieure à la nôtre, des torts que nous avons pu leur causer, mais aussi des savoirs partagés et de notre construction commune du Québec d'aujourd'hui. Par-dessus tout, je souhaite d'avoir la sagesse de maintenir le dialogue. OK. Alors ça, c'était, disons, que l'enquête des institutions sur la maltraitance des Autochtones. Et puis, maintenant, de la part d'un Autochtone, je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle « Mythes et réalités sur les peuples autochtones », c'est de Pierre Lepage. Ça, vous pouvez avoir ça gratuitement de l'Institut Tsakapesh, T-S-H-A-K-A-P-E-S-H. J'ai beaucoup de citations, là. Par exemple, « Il y a une naissance d'une identité canadienne », dit-il. Et puis, il nous rappelle qu'il y a eu une appropriation progressive des terres occupées par les Autochtones et une loi sur les Indiens dès 1876. Bon, alors, c'est vraiment, tu sais, je veux dire, c'est super intéressant, mais c'est trop pour que je puisse vous en parler au complet dans une seule émission. Alors, Ghislain Picard est d'accord avec ce livre-là. c'est le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador. Et donc, consultez et faites venir le livre gratuitement là, de l'Institut Tsakapesh. Ça s'appelle « Mythes et réalités sur les peuples autochtones » de Pierre Lepage. Je vous parlais de langue. Il existe un dictionnaire qui s'appelle « Le vocabulaire français Abenaki ». Ça existe. Fait que vous pouvez vous le procurer, tu sais, dans vos efforts. Par exemple, je vois le mot « puissance », c'est « Mlikasan no Wagan ». Et puis, je vous informe qu'il existe un hôtel à Wendake, l'hôtel Musée des Premières Nations. Fait que ça serait une bonne place à aller pendant les fêtes, peut-être. Il y a également un dictionnaire des termes inuits. Par exemple, dans la direction des vents, les vents, c'est Natimat, c'est l'ouest. Pour les saisons, Nipin, c'est l'été. Pour les mois, Sichip Pichim, c'est avril. Et le mois du canard, c'est Nissi Pichim, c'est mai. Alors, je vais faire venir M. Kashtin en ce moment et à tantôt. Yes, Kwe. OK, de retour à nous le futur. Bien, de retour, on est dedans, là. C'est les Premières Nations, c'est Kashtin qui chantait. Et je voulais vous dire qu'il y existe une sorte de biographie de tous les livres qui existent à la librairie Anenorak, H-A-N-N-E-N-O-R-A-K. Fait que vous pouvez vous procurer ce livre-là, là. Un petit catalogue. Puis dans un de ces catalogues-là, il y avait le livre « Littérature autochtone francophone au Québec ». C'est une anthologie présentée et rassemblée par Maurizio Gatti. Alors, c'est ça, ce livre-là m'a beaucoup aidé pour vous faire cette émission. Tu sais. Je me suis procuré plusieurs livres là, et dont je vous parle. Fait que ce que je veux dire, dit-il, c'est qu'il est temps de déboulonner le mythe de l'Indien hollywoodien sur son cheval en parfaite communion avec la nature, qu'elle est plus forte que l'univers. C'est de la bullshit. Oui, nous avons une relation respectueuse avec la nature, mais le maudit original ne venait pas de lui-même s'offrir un sacrifice. Avant l'arrivée des Blancs et de leurs super fusils, il fallait le courir après en tabarouette. Et les chances de l'attraper étaient bien minces. Le peuple autochtone a connu de nombreuses famines et il arrivait quand même assez souvent que le monde meure de faim. Avant de penser à notre avenir, il faut donc commencer par démolir le mythe que la période précolombienne était notre âge. Sérieusement, il m'arrive de penser que c'est une tactique perverse pour nous faire croire que notre temps est révolu. Ça, c'est tiré de l'Indien stoïque que vous pouvez vous procurer à la librairie Anenorak. OK. L'Indien stoïque, c'est écrit par... Juste une seconde. Daniel Siwi. Bon. Il y a un autre livre qui est super important. Ça s'appelle « Pour une auto-histoire amérindienne ». C'est de George E. Siwi. Pour la première fois, un Amérindien esquisse les règles qui devraient s'appliquer à l'étude de l'histoire des Autochtones. L'auteur démontre que ces lignes directrices doivent correspondre à l'image que les Autochtones ont d'eux-mêmes et à leur éthique sociale, et qu'elles devraient présider aux relations entre les Autochtones et ceux qui ont immigré plus récemment en Amérique. Rien n'est plus important pour l'avenir de nos études que de savoir nos collègues amérindiens prêts et résolus à prendre en main leur anthropologie et leur histoire. L'ouvrage de Siwi en apporte une démonstration très brillante. Vous avez aussi, par exemple, le livre « Ninkanike Itapian », c'est un avenir autochtone décolonisé de Sipi Flamand. Ça se veut un essai sur l'avenir des peuples autochtones à l'ère de la réconciliation. Sipi Flamand invite les populations autochtones et québécoises à se préparer à d'autres réalités politiques et juridiques qui placeraient les enjeux autochtones au premier plan, à la fois utopique et dystopique. L'auteur part de la situation actuelle vécue par les peuples autochtones et nous entraîne sur le chemin du rêve de l'autodétermination et de la reconnaissance des droits ancestraux. Il y a un autre livre qui s'appelle « Contre le colonisme dopé aux stéroïdes », le combat des Inuits du Québec pour leur terre ancestrale. Bon, alors, il y a une préface de Denis Delage. Et le résumé en arrière, c'est Pour les Québécois, le projet hydroélectrique de la baie James, lancé en 1971, a marqué un point culminant de la Révolution tranquille. C'était la prise de possession physique et symbolique de l'ensemble du territoire sur lequel le peuple du Québec était destiné à connaître enfin son plein épanouissement. Et si ce grand projet avait un côté sombre? Et si, en affirmant notre langue, notre culture et notre emprise sur le territoire, nous avions été sourds et aveugles à l'attachement d'un autre peuple à sa langue, à sa culture et au territoire que ses ancêtres occupaient depuis des millénaires? Choquant, dérangeant, exprimant des vérités sur lesquelles on préférerait pouvoir fermer les yeux, ce livre est un document essentiel pour comprendre le point de vue des Inuits dans les bras de fer qui les a opposés à Québec. C'est une occasion unique d'entendre une voix qui a eu bien peu d'écho au Sud et, pour les Québécois, de faire un examen de conscience salutaire quant à la façon dont ils ont, par le passé, transigé avec les Premières Nations. Alors, le titre, c'est « Contre le colonialisme dopé aux stéroïdes, le combat des Inuits du Québec pour leur terre ancestrale ». Et puis, un peu dans la même ligne, il y a Thomas King qui a écrit « L'Indien malcommode, un portrait inattendu des Autochtones d'Amérique du Nord ». On nous dit, Chantal Guay de la presse, là, vous ne verrez plus l'histoire de l'Amérique de la même façon après avoir lu Thomas King. L'Indien malcommode est à la fois un ouvrage d'histoire et une subversion de l'histoire officielle. En somme, c'est le résultat de la réflexion personnelle et critique que Thomas King a menée depuis un demi-siècle sur ce que cela signifie d'être indien aujourd'hui en Amérique du Nord. L'Indien malcommode ne va pas vous plaire. Il va vous passionner si la justice vous passionne. Il va vous choquer. Il va vous attrister, c'est sûr, mais le pire, c'est qu'il va aussi vous faire rire. Il y a Naomi Fontaine qui a écrit un roman qui s'appelle « Manikanetish ». Naomi Fontaine, c'est une enseignante de français en poste sur une réserve Innu de la Côte-Nord et elle raconte la vie de ses élèves qui cherchent à se prendre en main. Ça s'appelle « Manikanetish », c'est un roman. Et puis, il y a un livre qui s'appelle « Émergence insoumise ». Ça aussi, c'est disponible à la librairie Aninorak. C'est de Cindy Wild. « Émergence insoumise », ça s'ouvre sur un souvenir de l'autrice qui attend un taxi après un cours. « Non, mais croyez-vous vraiment que moi, une femme des Premières Nations, je vais aller attendre seule le soir à Val-d'Or? » Ces mots adressés au gardien qui lui indique que les portes de l'université sont sur le point de fermer seront le catalyseur d'une réflexion sur le sort réservé aux femmes autochtones, aussi bien dans le milieu carcéral que dans la société canadienne en général. Conjuguant réminiscence personnelle et analyse du racisme systémique afin d'aller au-delà des statistiques et des préjugés, cet essai de Cindy Wild s'inscrit dans une tradition de littérature de combat qui bouscule les idées reçues et dynamite le confort et l'indifférence. Alors maintenant, nous passons à une publicité. J'espère que ça va être une vraie publicité cette fois-ci-là. Et la station, c'est CFAQ, CFAQ à Sherbrooke, la radio de l'Université de Sherbrooke. Mon nom, c'est Claude Saint-Jean et vous êtes à Nous le futur, puis on parle des Premières Nations, OK? Fait que je vous fais une sorte de nomenclature des livres importants par les Premières Nations. J'ai en main, par exemple, le livre Pawatik, P-A-W-A-T-I-K, les Anishinaabek du lac Simon racontent leur histoire. C'est écrit par le groupe Miadji. Alors, le lac Simon, c'est dans le parc La Vérendrye, en s'en allant à Val-d'Or. Là. Puis ce même groupe, le groupe Miadji, a écrit Odibi, O-D-I-B-I. C'est un voyage dans l'histoire Anishinaabe du lac Simon. C'est une bande dessinée. Alors, c'est super. Allez trouver ça à la librairie Aninorak. Puis, il existe un livre qui s'appelle Les voies du présent. C'est un collectif qui l'a écrit. Exemple, il y a Marie-André Gill, David Gill, Stephen Jérôme, Daniel Siwi. C'est un collectif qui emprunte différentes formes. Ce recueil de témoignages nous renseigne sur les qualités intrinsèques, les talents et les acquis qui permettent d'être un leader en situation autochtone. Cet ouvrage se veut un hommage à la pluralité des identités autochtones et aux forces des communautés qui forment les jeunes aujourd'hui, ainsi qu'un appel aux espoirs de demain. Puis de Georges Siwi, La Huron-Wendat, l'héritage du siècle. Ça, c'est vraiment un livre de philosophie de base là, de la nation Wendat, là, qui nous parle de c'est quoi l'héritage du siècle. L'auteur dédie cet ouvrage à nos ancêtres qui continuent à vivre en nous et dans le monde des esprits. Les humains sont Ongwe, O-N-G-W-E. Les Wendat ne croyaient pas avoir été placés sur la grande île pour dominer le reste de la création. La mythologie révèle plutôt qu'ils croyaient avoir été créés pour témoigner de l'infinie grandeur et de l'infinie sagesse du maître de l'univers ainsi que de ses co-créateurs, et donc pour vivre en harmonie avec la quantité infinie d'autres êtres qui acclamèrent avec un bonheur incontenable de l'implantation parmi eux de ce prédateur contemplatif. Alors, George Siwi raconte ici l'histoire millénaire des Wendat, les ancêtres des Hurons-Wendat et de son riche héritage pour le Canada et le monde moderne, avec la préoccupation qui fut toujours la sienne, retracer l'origine des idées sociales et philosophiques de son peuple. Nous avons voulu offrir à la grande société humaine cette réflexion sur l'histoire et la nature d'une civilisation du siècle, la civilisation Wendat. Alors, c'est de George E. Siwi, les Hurons-Wendat, l'héritage du siècle. Et très moderne, là, c'est Florent Volant qui a écrit le livre « Nina Nimishken, je marche contre le vent ». Alors, Florent Levent, il dit qu'il est issu d'un peuple nomade et c'est là que s'est déroulée sa vie en marchant aux côtés de Justin Kingsley. Le livre s'articule autour de trois périodes d'isolement, le pensionnat à 5 ans, la prison à 18 ans, l'hôpital à 61 ans. Ce récit chuchoté, imprégné des images et mythes de sa culture inou millénaire, offre un témoignage poignant sur les pensionnats et les conséquences de la délocalisation forcée dans les réserves. C'est un petit xylophone et une chorale qui ouvriront les portes de la musique à cet élève brillant, aux prises avec une quête d'identité qui marquera l'homme et l'artiste en devenir. Si Florent s'est toujours trouvé face au vent, souvent happé par les tornades, une tornade entre parenthèses, c'est Kashtin en inou, les leçons qu'il en a tirées lui ont permis d'avancer. Il nous révèle les valeurs fondamentales, confie ses amitiés musicales avec les trois Richards, Richard Séguin, Richard Desjardins et Zachary Richard, et sa relation tumultueuse avec Claude McKenzie, avec qui il a formé le duo Kashtin, le premier groupe autochtone de renommée internationale. C'est un ardent défenseur de la nature, ambassadeur des Premières Nations et mentor auprès des jeunes. Florent Volant souhaite, avec ce livre notamment, contribuer à la réconciliation des peuples. Et le titre, c'est, je vous le rappelle, « Nina Nimishken, je marche contre le vent » de Florent Volant et Justine Kinsley. Et je voudrais terminer par deux petits livres, l'un qui s'appelle « Sagesse indienne, pensées et méditations ». C'est des textes recueillis par Michel Piquemal, puis finalement aussi « Paroles amérindiennes ». Alors, je vais vous citer quelques paroles de sagesse. Bon. Ça s'appelle « Le monde en mouvement ». La vie dans un tipi est bien meilleure. Il est toujours propre, chaud en hiver, frais en été, facile à déplacer. Les Indiens et les animaux savent mieux vivre que l'homme blanc. Personne ne peut être en bonne santé sans avoir en permanence de l'air frais, du soleil, de la bonne eau. OK. Un autre texte, c'est de Eduardo Galeano. C'est un écrivain uruguayen. Tout est sacré et nous aussi. Bon, nous sommes la famille de tout ce qui pousse, grandit, mûrit, se fane, meurt et renaît. Chaque enfant a de nombreux parents, oncles et tantes, frères et sœurs, grands-parents. Le maïs, le haricot sont frères et grandissent ensemble sans se bagarrer. Les pommes de terre sont filles et mères de celui qui les plante, car celui qui crée est créé. Tout est sacré et nous aussi. OK, je vais arrêter là pour ce livre-là. Et puis je vais vous citer aussi de l'autre livre, Paroles amérindiennes. C'est Sitting Bull qui dit « Des pieds en bonne santé peuvent sentir le cœur même de la terre mère. » Et puis ici, il y a une prière Cherokee. Nous rendons grâce à notre mère, la terre, qui nous soutient. Nous rendons grâce aux rivières et aux ruisseaux qui nous donnent l'eau. Nous rendons grâce à toutes les plantes qui nous donnent les remèdes contre nos maladies. Nous rendons grâce au maïs et à ses sœurs, les fèves et les courges, qui nous donnent la vie. Nous rendons grâce aux haies et aux arbres qui nous donnent leurs fruits. Nous rendons grâce au vent qui remue l'air et chasse les maladies. Nous rendons grâce à la lune et aux étoiles qui nous ont donné leur clarté après le départ du soleil. Nous rendons grâce à notre grand-père et nous pour avoir protégé ses petits-enfants, des sorcières et des reptiles, et nous avoir donné sa pluie. Nous rendons grâce au soleil qui a regardé la terre d'un œil bienfaisant. Enfin, nous rendons grâce au grand esprit en qui s'incarne toute bonté et qui mène toutes choses pour le bien de ses enfants. Et là, je vous fais une petite légende esquimaux. Au début des temps, Il n'y avait pas de différence entre les hommes et les animaux. Toutes les créatures vivaient sur Terre. Un homme pouvait se transformer en animal s'il le désirait, et un animal pouvait devenir un être humain. Il n'y avait pas de différence. Les créatures étaient parfois des animaux et parfois des hommes. Tout le monde parlait en une même langue. En ce temps-là, les mots étaient magie et l'esprit possédait des pouvoirs mystérieux. Un mot prononcé au hasard pouvait avoir d'étranges conséquences. Il devenait brusquement vivant et les désirs se réalisaient. Il suffisait de les exprimer. On ne peut donner d'explication, c'est comme ça. Donc voilà, je vais terminer cette émission sur cette légende esquimaux. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute et vous pouvez réécouter, bien sûr, le balado qui sera prêt dans quelques jours parce que je suis conscient que j'ai parlé vite et je vous ai donné des titres de livres que vous pourriez lire pour vous inspirer, pour connaître plus les Autochtones, les Premières Nations qui nous ont précédés, nous, descendants des Européens, ou bien nous qui venons d'autres... gens du monde, là, tels Uruguay, Paraguay, Syrie, par exemple, et qui est à Sherbrooke en ce moment. Alors, je vous souhaite de joyeuses fêtes, et puis je vous remercie d'être ici, et salut!